Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous allez retrouver Arnaud Boutéon pour son émission Athlète du Christ. Nous parlerons aujourd'hui de la joie sportive. Arnaud Boutéon, bonjour.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs de Radio Maria. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison. C'est comme une saison sportive qui va s'achever. On est content de ce qu'on a fait, on est content des échanges qu'on a pu avoir avec les auditeurs. Et puis, il y a un peu de nostalgie aussi avant la reprise l'année prochaine, avec un format un peu différent, mais toujours avec le même élan de rendre grâce au Seigneur pour cet élan du cœur qui mobilise toute notre personne, corps, âme, esprit à travers le sport. Et puis qui exprime aussi notre gratitude pour le Seigneur, notre gratitude à travers notre filiation de fils de l'Église. Donc c'est tout ça qu'on partage ensemble à Radio Maria depuis quelques années. J'aurais voulu juste revenir avec vous, on est un peu en famille ensemble, sur un anniversaire qui est aujourd'hui le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. Vous vous en souvenez peut-être à Roland-Garros, et on se souvient de ce moment un peu surréaliste où Yannick Noah gagne le dernier point, et puis son père Zachary saute de la tribune présidentielle. Je crois que c'est un saut de 2,50 m de haut. Il peut se briser la cheville, mais il court vers son fils pour l'étreindre de toutes ses forces. Et très récemment, il y a eu un documentaire incroyable qui s'appelle Papa sur Canal+, et qui retrace un peu les liens entre les grands champions et leurs parents. Et je ne sais pas si ça peut marcher, mais je voudrais juste vous passer ce petit extrait de Yannick Noah qui reparle de cette rencontre avec son père comme d'un des moments les plus importants de joie dans sa vie. Alors écoutez, chers amis. Voilà, ce que vous avez entendu, peut-être que le son était difficile, il dit « tu pleures de joie, mec » dit-il, « tu pleures de joie dans les bras de ton père » et il dit ensuite « c'est un des moments les plus importants de ma vie » et je crois que ça préfigure, j'en suis convaincu, et bien cette rencontre avec le père de toute éternité, on est tous un peu fracassés. Et moi, j'aime bien réfléchir un peu sur le sujet de la consolation. Et il me semble que nous avons comme ça des réalités terrestres, de moments de jubilation qui sont comme la préfiguration de ce que nous allons vivre quand nous serons pleinement consolés, quand nous pleurerons de joie dans les bras du Père. Nous irons à sa rencontre, il viendra à notre rencontre. Et là, nous serons pleinement consolés avant de vivre ces moments de béatitude. Je ne sais pas si vous avez bien entendu cet extrait, mais en tout cas, c'est intéressant parce que il me semble qu'aujourd'hui, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses difficiles dans notre monde, il faut savoir à chaque fois voir des petits signes d'espérance, des petits signes de catéchisme dans la vie de tous les jours. Et en entendant ce grand champion qu'est Yannick Noah, qui a lui-même enfanté un champion, lui-même fils de champion, on a comme une espèce de filiation très puissante avec une tendresse et puis cette joie ineffable. Donc je commence par la joie et puis vous verrez, cette émission la terminera également ensemble dans la joie. Et il y a une autre très belle figure de joie, c'est Mère Teresa. Récemment, il y a eu la diffusion d'un très beau film sur Mère Teresa. Quand on voit Mère Teresa, on voit quelqu'un d'assez sobre, d'assez sérieux, qui est souvent en mouvement. Et vous savez que Mère Teresa a d'abord obéi à l'Église pour pouvoir médiatiser un peu son œuvre, parce que spontanément, elle l'aurait jamais fait. Mais quand on voit aujourd'hui le dévouement de toutes ces sœurs, des missionnaires de la charité, et derrière l'acceptation de la croix, et tous les matins, elle passe plusieurs heures en adoration au pied de Jésus, avec cette mention « dans toutes les maisons du monde, j'ai soif ». Et elles nous disent tous avec beaucoup de pudeur, derrière la croix, il y a toujours la joie de se donner, la joie de s'offrir, c'est une joie eucharistique, pour que les personnes reçoivent dans cette vie une petite consolation par rapport à toutes les tribulations qu'elles peuvent rencontrer. Donc, pour commencer cette petite méditation sportive et enlevée ce matin, en début de semaine, Viens sois ma lumière, qui est un très beau chant dont les paroles ont été viennent de Mère Teresa, qui a été composée par des jeunes témoins catholiques français, Anne-Sophie Ram et Bénédicte de Lellis, qui font un travail missionnaire extraordinaire. Oui, chers amis de Radio Maria, viens sois ma lumière. Nous allons parler de la joie sportive. Et il y a un événement qui était éminemment sportif et éminemment chrétien qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. C'était le pèlerinage de Chartres. Je voulais vous en parler et puis évoquer ensemble de façon plus générale l'esprit des pèlerinages. Il y a un prêtre qui s'appelle le père René Pichon qui a énormément écrit sur la pastorale des champions, qui disait, ayant accompagné énormément de sportifs et énormément de familles, qui disait qu'il remarquait que les familles dans lesquelles on faisait du sport étaient une famille dans laquelle on s'entendait davantage. Il y avait davantage d'unité, il y avait davantage de complicité. Et ce que j'ai pu voir au sein du pèlerinage de Chartres, je voulais juste faire un petit point sur deux éléments que j'ai trouvé très belles. Que magnifique. Le premier, c'est ces chapitres famille où, vous savez, un chapitre, c'est un peu comme une équipe. On va passer 3 jours ensemble, 3 jours de souffrance, 3 jours de communion, 3 jours où on va dépasser des épreuves, 3 jours de joie, de complicité. Et dans ces chapitres famille, il y avait un chapitre qui suivait un peu les pas de Saint José Luis Sanchez del Rio. Ce jeune Cristeros martyr dans les années 20 au Mexique, et les parents, et souvent les papas, étaient un peu en première ligne. Ils avaient distribué à tous les enfants, la moyenne d'âge était inférieure à 12 ans, des chapeaux mexicains. Donc il y avait une touche un peu d'autodérision, voyez, un peu d'exotisme. Et puis ils ont été évidemment enseignés au gré des. Alors, le chapitre enfant doit faire une cinquantaine de kilomètres pendant les 3 jours, au gré de ces kilomètres sur la vie de ce grand saint. Et en regardant la ferveur des papas, les mamans qui s'occupaient de l'intendance, et souvent les papas étaient derrière le microphone, j'ai vu le regard des enfants sur ces papas qui étaient complices avec d'autres pères, et j'ai perçu vraiment une immense admiration. J'ai perçu beaucoup beaucoup de respect. J'ai vu beaucoup de complicité entre les enfants et leur père. Et puis il y avait des abbés qui étaient là, vous savez, toujours pour confesser. En moyenne, les prêtres qui accompagnent le pèlerinage de Chartres ont entre 80 et 100 confessions. Donc c'est quelque chose aussi qui les réancre dans leur sacerdoce et dans le pourquoi de leur ordination sacerdotale. Donc dans cette équipe qu'est le chapitre, eh bien on tombe les masques, on transpire ensemble, on est tous un peu ridicules, on est mal habillés. Là, on assume une part de ridicule avec les chapeaux mexicains, mais quand on avance côte à côte, eh ben, on ne se regarde pas, on est en mouvement. C'est aussi la grâce des pèlerins. On avance et puis les masques tombent et on parle de nos difficultés. Et tout le travail de ces pères auprès de leurs enfants, leurs futurs ados, était de les enseigner. Était de leur partager également comment est-ce qu'ils ont grandi dans la foi. Ils avaient 12 ans il y a peut-être 20 ans, ils étaient comme eux, et puis aujourd'hui, ils sont derrière leur microphone avec le chapelet à la main, et ils amènent leurs enfants vers la cathédrale de Chartres avec près de 20 000 pèlerins. Et deux choses importantes. Donc il y a bien sûr cette joie, cette jubilation quand on arrive à Chartres. Pourquoi? Parce qu'on a transpiré, on a souffert, on a tout donné. Et vous savez, quand on réfléchit aux grands moments de bonheur dans notre vie, si on réfléchit bien, si on se pose, les vrais grands moments de joie et de bonheur, ils sont toujours après un moment de souffrance, un moment de séparation, un moment de manque ou de difficulté. Et le sportif comme le chrétien est celui qui sait finaliser la souffrance. Et de cette souffrance, c'est aussi la croix, naît une joie. On a besoin aujourd'hui de comprendre que c'est une forme de gratuité et puis d'espérance aussi, c'est que nos difficultés sont finalisées. Elles sont finalisées sur terre ou au-delà, mais vous savez, la vie éternelle a déjà commencé. Donc c'est cette joie qui naît de l'effort. Et puis cette complicité, il me semble que les temps qui nous sont donnés de vivre doivent amener les chrétiens à avancer épaule contre épaule. Alors tout le monde n'a pas la même sensibilité liturgique, mais je crois que le pèlerinage, qui est comme une épreuve sportive, doit nous amener à converger par des voies différentes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une route vers Chartres, mais il y a tellement de monde qu'on évoque une deuxième route. Eh bien, on va vers le Père. Tout le monde, toute le catholicisme, les chrétiens vont vers le Père, et avec ces voies différentes. Aucune voie ne peut prétendre être la meilleure, mais je crois que chacun doit conserver cette belle identité, cette histoire, parce que, vous savez, les champions, on dit souvent que leur point fort, leur identité, c'est leur talent. Un joueur ne doit pas cumuler toutes les qualités, sinon finalement il devient comme les autres. Mais celui qui a un revers extraordinaire, je pense au tennis parce qu'on est à Roland-Garros, eh bien il travaillera son revers beaucoup avec plus d'intensité, qu'il ne compensera les lacunes peut-être dans son coup droit. Et je crois que c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut envisager une forme d'écuménisme intra-catholique, non pas compenser toutes ces séparations pour faire finalement quelque chose d'assez uniforme, mais travailler sur nos points forts, travailler sur notre singularité, et puis comprendre que nous avançons tous ensemble vers un but. Et ce but, ben, c'est un peu, c'est d'aller vers le Père, c'est d'aller vers le Père, et puis de conduire les gens au Père. Ce n'est pas juste notre salut, c'est le salut de ceux que nous aimons, de ceux qu'il nous est donné de rencontrer, parce qu'on est tous co-responsables les uns des autres. Donc il y a cette joie qui vient de l'épreuve, de la souffrance, cette persévérance, cette endurance, parce que le chemin, il est finalisé, et puis cette complicité des chrétiens qu'ils savent qu'ils ont des histoires différentes, des histoires saintes différentes, avec des blessures, avec des joies, avec des louanges, des actions de grâce, qu'ils ont des sensibilités différentes. Mais c'est comme un bouquet de fleurs, et bien toutes ces sensibilités doivent s'additionner pour liturgiquement, finalement, rendre grâce au Seigneur. L'Église catholique, et c'est ça que j'aime dans l'Église, il faut que ça soit du désordre. Il faut que ça soit du désordre. Cette espèce d'uniformité qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des régimes étatiques de propagande, où il faudrait qu'on soit tous de la même couleur, que tout soit complètement clean, ordonné, symétrique. Je crois que la grande joie, c'est une forme d'asymétrie, c'est une forme de grand désordre, parce que c'est la vie. Fondamentalement, c'est la vie. On n'est pas dans quelque chose de statique et de monocolore, mais on est quelque chose dans un environnement de vie, et puis de bouillonnement en permanence créatif. Ce que j'ai pu observer, et ça rebondit aussi autre chose que je voulais partager avec vous, cher les auditeurs, c'est aussi ce phénomène des supporters. On a beaucoup parlé ici à cette antenne des fans, vous savez, de la même façon qu'on est heureux de porter les couleurs de notre équipe préférée, de crier avec elle dans les travées des stades, de l'encourager, de se retrouver avec d'autres supporters. Eh bien, je voulais vous partager un peu de tristesse que j'observe de plus en plus dans le sport, et je suis sûr que vous êtes beaucoup plus lucide que moi, vous avez pu l'observer. Eh bien, c'est une forme de dérive aujourd'hui du supporterisme. J'ai pu le voir en assistant à la finale de la Coupe de France, où j'ai vu des supporters huer les supporters adverses. Et quand on fait le parallèle entre un peu les fans et les fidèles, vous savez, j'ai souvent fait ces comparaisons un peu suggestives, je vois à quel point, finalement, il y a toujours un risque, et c'est une responsabilité aussi des prêtres, c'est une responsabilité des responsables dans l'Église, de se dire, la parole que je promeux, est-ce qu'elle va faire grandir le fidèle qui va l'écouter, ou est-ce qu'elle va finalement l'enfermer dans ce qui pourrait devenir une forme de fonds de commerce? En disant, eh bien, je suis supporter du PSG, je deviens de plus en plus supporter du PSG, tout ce qui n'est pas PSG devient un ennemi, quoi, à abattre. Eh bien, il ne faut pas que dans nos communautés, et ça rejoint un peu cet écuménisme qui est une symphonie, qui est une respiration à plusieurs poumons, eh bien, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'il y ait une forme de crispation dans nos communautés en disant, attention, je suis comme ça, mais j'ai la vérité. Ceux qui marchent vers Chartres, comme ils chantent en latin, ce sont des gens obtus. Réciproquement, on dirait ceux qui lèvent les mains sont des gens fêlés. Je crois qu'on n'a plus le temps de dire ça. Et attention à une forme d'intégrisme, de fidéisme. Et le pape Benoît XVI, et vous savez, le pape vraiment de l'intelligence, on a voulu en faire un moralisateur, c'est un contresens historique, il nous ramenait au Christ. Et à travers le sport, à travers tout ce qu'on a pu partager dans ces ondes, avec cet élan de joie, cet élan de ferveur, je crois que y a plusieurs choses qui caractérisent notre personne. D'abord, nous sommes faits pour Dieu, et puis ensuite, nous sommes notre personne, corps, âme, esprit, et dans l'esprit, il y a cette intelligence, il y a cette conscience du temps long. On évoque beaucoup les temps à venir autour des minorités créatives, c'est comme des petites équipes. Avant, il y avait des gros paquebots institutionnels. Aujourd'hui, on avance avec des petites équipes qui ont plein de projets. Et parmi les deux vertus des minorités créatives, il y a l'audace. Et je crois que c'est très français aussi. Vous savez, le pape François reconnaît cette vertu qui nous vient des Français. On aime monter des projets. Peut-être que on est ductile à l'Esprit Saint. En tout cas, on monte des projets et ça reste pas uniquement à l'état de plan. On fait des choses en France, pas mal de projets missionnaires. On prend les choses à la lettre, on écoute Laudato Si, hop, on lance des projets directement dérivés de Laudato Si. On crée des congrès, on crée la mobilisation de l'Église pour les JO est quand même assez novatrice. Et ça nous est, ça, c'est observé de très près de l'extérieur. Donc il y a cette audace, et je crois que rendons grâce pour l'audace missionnaire des Français. Et puis il y a cette magnanimité. Alors ça, c'est pas notre première caractéristique. La magnanimité, c'est de voir large, loin et profond. Et il me semble qu'aujourd'hui, quand on est pris, quand on est avec passion dans un mouvement, parfois on a un peu de difficulté à prendre de la hauteur. Vous savez, comme l'aigle qui va avoir une vision à 360. Et peut-être devons-nous travailler un peu pour travailler ce temps long qui doit nous conduire dans l'espérance. Quand on voit la moyenne d'âge des pèlerins de Chartres, 20 ans, on se dit « waouh ». On va arrêter de pleurnicher parce que là il y a des cohortes de jeunes chrétiens fervents. Accompagnons-les, rendons grâce pour toute cette transmission qui se fait dans la famille. Donc voyons le temps long, voyons large, parce que on voit aujourd'hui autour de nous, même toi, vous voyez, je parlais de Yannick Noah tout à l'heure, on voit des gens qui cherchent Dieu à droite, à gauche. Ils ne l'ont pas encore rencontré, ils n'ont pas rencontré de prêtre, ils n'ont pas rencontré la foi catholique, mais ils cherchent Dieu. Et parfois, même dans leur désordre, dans leur bouillonnement, il y a une quête de Dieu. Tout à l'heure, je vous lirai un petit passage du poète Xavier Gral, qui a retrouvé la foi de son enfance. On voit que dans les errances, il y a une quête de Dieu. Donc, retrouvons cette forme de magnanimité pour voir grand, parce que le christianisme, il voit grand. Autre chose que je voulais vous partager, c'est intéressant parce qu'on est en fin d'année, donc c'est un peu la fin des saisons sportives, mais il s'est passé un événement qui nous a tous un peu bousculés, on est toujours un peu supporter du club de son enfance. Moi, le club de foot de mon enfance, c'est Rennes. Mais habitant Paris, je suis de très près le Paris Saint-Germain. Eh bien, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, qui s'appelle Sergio Rico, a eu un grave accident de cheval. Il se rendait à un pèlerinage catholique. Il est catholique, fervent. Et le dimanche de la Pentecôte, il est tombé. Il est entre la vie et la mort. Eh bien, vous savez, il y a tout un projet qui devrait se concrétiser dans les heures à venir, qui va amener l'Église catholique à inviter les supporters du PSG à une messe pour prier à la Madeleine pour le rétablissement de Rico. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont invité à prier, l'épouse de Rico a invité à prier. Eh bien, comme dit le poète Peggy, intercalons le christianisme. Le terrain, vous voyez, on est vraiment sur la réalité du terrain, on n'est pas dans les instances institutionnelles avec un laïcisme mou. Les joueurs, ils transpirent dans leur corps, et la question de la blessure, ça soulève beaucoup de questions sur la vie surnaturelle, sur la vie après la mort, sur la souffrance, sur la douleur, et le fait spirituel, il est très présent dans les vestiaires sportifs. Et là, il y a une mobilisation de prière autour de Sergio Rico. On est très loin du côté marketing et bling-bling et kitsch de la promotion. Là, il y a un moment où on est dans les vestiaires, on est derrière un peu toute cette façade, et puis on est à genoux et on va inviter à prier pour le rétablissement de Sergio Rico, et on va inviter les supporters du Paris Saint-Germain. Il y aura un communiqué de presse à venir à la Madeleine, parce que l'Église, elle se réjouit, elle pleure avec ceux qui pleurent, et elle se réjouit avec ceux qui réjouissent. Et ce compagnonnage avec le monde du sport, finalement, il se fait de façon totalement cohérente avec cette invitation de Saint Paul. Les chrétiens sont dans le monde, ils sont dans la glace du monde. Il faut aimer le monde. On n'est pas du monde, attention, mais nous aimons le monde pour pouvoir le transformer, lui annoncer le Christ. Et dans ces moments un peu de difficulté, eh bien on va ouvrir les portes de nos églises pour inviter à poser un geste de piété, et puis de ferveur, et puis d'espérance. On a le cœur étreint par la douleur, on sait qu'il y a un homme qui souffre, on comprend la solidarité d'une équipe de football, et on espère qu'un maximum de personnes pourra venir se recueillir et puis ouvrir son cœur d'enfant pour demander à la Sainte Vierge Marie, à Notre-Dame des Sportifs, qui sera en entrant dans la Madeleine à gauche, d'intercéder auprès de son fils pour que ce champion puisse guérir et puis toujours davantage témoigner de sa fidélité avec le Christ. Il a le maillot 16, Sergio Rico, et puis on va inviter les pèlerins, les 16 premiers pèlerins, à partir de l'autel avec une bougie et puis à la déposer au pied de la Vierge. Vous voyez, je pense que c'est une merveilleuse idée qu'a eue Isabelle de Châtelus, qui dirige ce projet Holy Games de mobilisation de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques. Et il faut être toujours, on est dans à la suite de la Pentecôte, toujours être ductile au Saint-Esprit pour pouvoir aussi profiter de ces événements pour témoigner et exprimer notre foi catholique en rejoignant l'actualité, tout simplement. Dans cette joie sportive, je voulais évoquer aussi deux témoignages de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu parler finalement de ma fascination pour le monde du sport, et puis pour une forme de création artistique qu'on retrouve dans le sport. Et on a besoin de maîtres aujourd'hui. Et il y a quelques hommes politiques qui disaient nous ne sommes les héritiers de personne, mais ils ont la tête qui gonfle, ils ont un melon énorme. Et je crois qu'il est très important de se reconnaître disciple de personnes qui nous ont enseigné, et que nous-mêmes puissions nous abaisser pour que d'autres personnes grandissent. C'est Saint Jean-Baptiste, hein, il faut que je diminue pour qu'ils grandissent. Et il y a plein de personnes comme ça qui nous enseignent dans le monde. Et il y a quelques semaines d'intervalle, j'ai eu le privilège de rencontrer Tony Estanguet, qui aujourd'hui dirige le projet des Jeux Olympiques pour la France, qui a été multimédaillé olympique de canoë-kayak. Je crois qu'il a eu 3 médailles d'or. Et puis Michael Lonsdale, que vous, auditeurs de Radio Maria, vous connaissez bien, un acteur franco-britannique qui a une voix incroyable, qui avait une immense présence physique, et puis avec des rôles très, très intérieurs. Et je leur avais poser la question à quelques semaines d'intervalle: quel est un peu le carburant de votre art? Qu'est-ce qui fait que vous avez, en tant que sportif de haut niveau, en tant que champion, et vous en tant qu'acteur, que vous allez laisser une petite marque, une petite empreinte? Et il m'avait dit 3 choses, évidemment sans se concerter, et qui sont les mêmes. C'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin à l'antenne de Radio Maria. D'abord, ils ont évoqué l'humilité de travailler avec beaucoup de rigueur. Ils ont reconnu l'obéissance à des maîtres et toujours la répétition de l'effort, sans relâche, dans l'ombre de l'entraînement. Le même Yannick Noah, qu'on a entendu tout à l'heure, disait « les compétitions se gagnent à l'entraînement ». Donc ça veut dire que les compétitions de nos vies peuvent se gagner le matin à 6h30 du matin dans le coin d'une chambre, devant une icône, à prier et à confier au Seigneur nos vies. C'est pas dans l'éclairage des grandes assemblées ou des grandes réunions, c'est souvent dans ces petits moments décisifs, quand on est seul avec le seul, que des choses germent et finalement se précisent. Donc ils parlaient tous les deux de la répétition de l'effort en faisant résonner finalement en soi les vers de Boileau qu'on connaissait tous, qu'on nous enseignait quand on était jeune. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelques fois et souvent effacez. Donc c'est un travail un peu d'artisanat où on ne lâche rien, quoi. La préparation du champion, elle s'inscrit toujours dans un cadre où, avec humilité, on accepte ce cadre. Et puis on accepte des protocoles d'échauffement. C'est comme des exercices spirituels. C'est une variation de séquence avec des espaces, des progressions graduées, des positions. Mais en tout cas, rien ne se fait au hasard. Et puis on travaille ça, on muscle sa volonté, comme disait l'entraîneur Aimé Jacquet. Et puis comme on va muscler son jeu pour préparer la suite. Donc beaucoup d'humilité. Et puis on accepte un cadre, on accepte des partitions. C'est le premier point. Le deuxième point, le second mouvement, il n'apparaît qu'à l'issue du premier mouvement, c'est que quand on s'est soumis à cet apprentissage, progressivement va clore en nous des intuitions, des fulgurances. Ça va provenir de la connaissance que nous avons de notre personne, de notre histoire, lorsque notre volonté, notre corps va s'accorder, lorsqu'on intériorise tout ce qu'on va capter de l'extérieur. Et c'est là que le geste, il va jaillir. Parce que vous savez, Jean-Paul II disait que la finalité du sport, c'est le geste. C'est ce geste juste. Spontanément, il va jaillir. Et ce geste sera le nôtre. On ne va pas venir répéter le geste d'un autre. Il va venir de chez nous. Ce n'est pas uniquement de la technique. C'est notre geste. Et c'est notre identité propre. Ça va être notre style propre à nous. Moi, ma personne, corps, âme, esprit. Et il est exécuté sans se regarder ni se comparer. Poser le geste juste, c'est accepter d'être traversé par quelque chose qui nous dépasse. Et là, je parle d'un acteur comme d'un champion. Un ajustement entre ce geste, l'intention, entre le réel, l'idée, entre la situation finalement, le réel. Et parfois il faut improviser quand on remonte, on est, vous savez, dans les dernières secondes d'un match, il faut prendre des risques. Et puis toutes ces techniques qu'on a pu apprendre. Le sportif et le comédien ne sont plus des artisans ni des techniciens, ils deviennent réellement des artistes. Et je me souviens un jour d'une je crois que c'était une demi-finale de handball, il ne restait plus que 5 secondes, et il y avait un joueur français qui était Barjot. Il était plus Barjot que tous les Barjot. Et l'entraîneur avait eu ce génie de dire au gardien « Donne-lui la balle, donne-lui la balle, lui seul pourra nous sortir de ce mauvais pas. » Et c'était effectivement la personne qui pouvait sauver la France. Il a reçu la balle, il a pris des risques qu'aucun autre joueur aurait pris, et il a permis de marquer dans les ultimes secondes. Et alors le troisième mouvement, donc le premier mouvement, je le répète, c'est vraiment l'humilité de travailler, de répéter ses gammes, d'accepter un cadre. Le deuxième, eh bien, c'est de s'exposer et puis d'offrir un geste propre, notre intuition, qui est le fruit de notre personne, de notre travail. Et puis ce troisième mouvement, c'est davantage un état. Ce n'est pas un mouvement et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un instant précis où les sportifs comme les mystiques ou comme les comédiens vont parler d'une forme d'état de grâce. C'est celui d'une joie profonde. Et Michael Lonsdale, comme Tony Estanguet, on en parlait dans le même cœur. C'est une joie qui remplit le cœur. Parce que cette joie, elle vient d'une forme de consentement. On n'est pas là pour être les célébrants, finalement, de cette joie. C'est que cette joie, on l'accueille. On est au service de quelque chose qui nous dépasse. C'est comme une forme de liturgie. Hein. C'est une action de grâce. Et puis on va être dans un état de joie. Et cet état de joie, ça veut dire aussi qu'on est sur notre axe. Parce que le Seigneur ne vous veut pas de mal. Quand on a travaillé, quand on a offert ce qu'on était, eh bien, quand cette joie, elle naît, et cette joie, elle jaillit. On a tous pu vivre ces moments-là. Elle nous emplit le cœur. Eh bien, c'est un peu le stade ultime des élus. Elle vient confirmer que nous sommes alignés. Et je me souviens, des religieuses contemplatives nous parlaient de confirmatur divin. Ça veut dire qu'on est sur notre Orient. Et l'Orient, c'est quoi ? C'est l'Est, et c'est l'endroit d'où vient le soleil, d'où vient la lumière, d'où vient la résurrection. Quand on parle d'orientation, finalement, c'est ça. Est-ce que je suis orienté vers ma résurrection ? Est-ce que je suis tourné vers la résurrection ? Le chorégraphe Maurice Béjart, il affirmait que... la seule issue dans le monde actuel, c'est non la privation, mais c'est la joie dans le dépouillement. Et cette joie dans le dépouillement, on a pu la voir, on a pu la vivre dans ces moments aussi de pèlerinage où on avance vers un but, on lâche beaucoup de choses, on lâche des sécurités, on lâche des angoisses. Et puis à un moment où cette, ce lâcher prise vers l'avant, ce déséquilibre aussi du corps qui marche. On n'est pas on n'est pas fixe. On avance par la bascule et puis on est dépouillé. Voilà, c'est une porte qui s'ouvre, c'est comme une dilatation du cœur, alors même, vous voyez, que le corps souffre. Et j'aime beaucoup ce mot de Mère Thérèse de Calcutta qui disait que la gaieté est le meilleur moyen de prêcher le christianisme. Le christianisme va se déployer par l'attraction, jamais par le prosélytisme. C'est pas nerveusement qu'on va attirer, mais c'est qu'il y aura cette forme un peu de détachement, un peu de liberté, où on va interpeller les gens. Les gens se diront, tiens, pourquoi est-il un peu différent? Pourquoi est-ce qu'il est plus libre? Pourquoi est-ce qu'il pose des gestes gratuits? Et derrière ça, il y a cet espace de gratuité. Je crois qu'il est lié aussi à notre filiation et à ces moments de prière qui viendront ponctuer et enraciner nos journées de pèlerins, parce que finalement, on est tous des pèlerins sur Terre et chaque journée est un nouveau tronçon de pèlerinage. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire sur cette joie des champions. Et saint Augustin parlait de ces hommes traversés par ces sons de jubilation qui produisent des sentiments que la parole ne peut exprimer. Et on repense aussi au philosophe Pascal. Vous savez, aujourd'hui, enfin cette année, on fête l'anniversaire de Pascal et ce fameux texte du Mémorial qui a été découvert, cousu dans son vêtement après sa mort. Il avait 31 ans, Pascal, un grand génie, un homme. Il avait une sœur aussi extrêmement douée, une espèce d'homme universel comme ça. Et puis, on a retrouvé ce texte du Mémorial. Il y exprime sa nouvelle filiation. Il est comme saisi, et on l'imagine, Blaise Pascal, le souffle court, transporté par l'émotion, on peut presque l'imaginer remportant un marathon. Et qu'est-ce qu'on retrouve cousu dans son vêtement? Ces mots: feu, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, Dieu de Jésus-Christ. Il ne se trouve que parmi les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, joie, 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 pleurs de joie. Magnifique mot, magnifique cri finalement vers le ciel de Blaise Pascal, qui n'était pas un illuminé, qui n'était pas un irrationnel. Mais il y a un moment donné, il est traversé par cette flamme qui vient posséder toute sa personne et l'amène vers une forme d'ineffable, de joie ineffable qui peut difficilement exprimer par les mots. Il doit dire joie, 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 pleure de joie. On est dans une émotion, mais qui vient mobiliser toute sa personne. Et pour revenir au terrain du sport, un jour, Sébastien Grosjean, qui était un joueur de tennis, disait la chose suivante: j'ai remarqué que chaque fois que je jouais dans la joie, la victoire était régulièrement au bout. Jouer au sens enfantin du terme me permettait d'être relâché sur le terrain et de faire abstraction du score et de l'enjeu. C'est très intéressant ce qui nous dit, ce que ça veut dire qu'il y avait cette forme de distance par rapport à l'enjeu. La joie lui permettait de comprendre qu'il était relié à un autre enjeu, à quelque chose d'autre. Et le sport comprend des choses, et bien... Nous, vous savez, à travers la prière du jour, on est comme branché sur une batterie qui nous rappelle notre filiation, qui nous donne notre énergie. Et puis, et au soir de notre vie, ben, peut-être qu'on aura, ben, on aura semé de grandes choses, mais en tout cas, on n'aura peut-être pas idolâtré les réalités que le monde voudrait qu'on idolâtre. La carrière, le pouvoir, l'argent, on sait que ce qui restera de nous, ça sera des moments d'une grande densité, des moments de partage, de joie, de bonheur. On repensera quand on avait 12 ans à notre papa qui menait le pèlerinage de Chartres, à ses sourires complices, à cette transpiration, cette fatigue, cette bouteille d'eau chaude qu'on va prendre et dont on va se verser sur la tête en enlevant sa casquette, ou qu'on versera sur la tête du pèlerin qui est à notre droite. Et puis ces moments d'émotion quand on rentrera à Chartres, où on chantera plein poumon avant la messe, et puis à la sortie de la messe on se sera endormi pendant l'homélie, et on aura goûté à cette liturgie, on se sera confessé peut-être pour la deuxième fois, on aura communié à genoux et voilà, on a expérimenté des choses absolument magiques, et le lendemain à l'école on en parlera avec des étoiles dans les yeux, et puis on parlera à des cousins, et puis l'année d'après on n'aura qu'une envie, c'est de revivre ces moments, ces grands moments de joie. Je reste sur mon canal et je continue jusqu'au temps qu'il m'ait imparti. Et un des chants qui venait terminer le film, vous savez, sur l'histoire d'Henrik Lindell, Les Chariots de Feu, qui est un grand film sur le témoignage d'une vie chrétienne dans le sport. Et Henrik Lindell avait refusé de participer à des compétitions. C'était il y a 100 ans, hein, parce qu'on était aux Jeux Olympiques de 1924, et il avait refusé de participer à une compétition le dimanche, et du coup, il y avait eu un changement, il avait été remplacé par la fédération anglaise, et on l'avait mis dans une autre discipline, et de façon exceptionnelle, il avait gagné dans cette autre discipline. Donc c'était un témoignage de vie extraordinaire, et il était pasteur évangélique, il avait terminé sa vie en tant que missionnaire, je crois, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, Be Still My Soul, Sois mon âme. Et c'est un très, 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 très beau chant et très populaire en Angleterre. Et je vous invite à revoir Les Chariots de Feu, hein, surtout dans l'année qui arrive, qui va être une année olympique. Mais je voudrais terminer cette émission en vous partageant quelques mots d'un poète qui s'appelle Xavier Gral. C'est un poète breton. Alors, c'est pas un sportif. Mais c'est quelqu'un qui, ou un sportif de l'esprit, c'est quelqu'un qui est décédé en 1981, qui a écrit un livre qui m'a bouleversé il y a 6 mois. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler encore. Mais on est, on forme une belle équipe ensemble avec les auditeurs de Radio Maria. Et Xavier Gral est quelqu'un qui a écrit un testament spirituel pour ses filles qu'il appelait mes divines. Il est mort à 51 ans d'une maladie pulmonaire. Et il a retrouvé un peu la foi de son enfance après le décès de son père. Donc c'était un poète qui aimait passionnément la Bretagne. Et je vous livre pour terminer cette émission quelques phrases, en tout cas la fin de ce testament spirituel qui, moi, m'a beaucoup ému. Il dit la chose suivante: « J'ai aimé tout ce qu'il est possible d'aimer, et c'est par ce canal brûlant que j'ai participé à la haute musique du monde et à la vérité de Dieu. J'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai béni. J'ai aimé le soleil, les chiens humiliés, j'ai aimé mon pays et je me suis battu, j'ai admiré. Oui, je n'ai cherché que Dieu, partout, dans les chemins, dans les bars, dans les plaisirs, dans les regards des amis, dans l'amour des femmes, dans les péchés de chair et de sang, dans la gloire des alcools. Il y a dans ce monde une énorme énergie d'amour. Tout l'univers s'enivre dans les bars des ports, dans les grands bols de sève qui coulent des arbres, dans le ruissellement des pluies, dans le vin des espaces. Cette rage d'avoir un point dans le cerveau et de ne pouvoir dire ce que je vois. Vogueur d'infini, nos navires sont trop fragiles. Mais mes divines, c'était ses filles. À votre âme, assignez la haute mer. Pour la nature, j'ai nourri un amour insensé, savoir chaque jour saluer la lumière et la remercier. Là, rien ne meurt. Tout gîte dans tout. Ma vie fut toujours un invisible départ vers autre chose, vers quelqu'un. Et ce fut parfois amer et déchirant. Risque spirituel. Les âmes stagnantes sont des âmes mortes. Bourgeois, dans vos lits pourris, dans votre confort de fric et de morale, vous n'avez pas cinglé vers le large. Et peut-être seriez-vous damné si, pour votre assomption, les poètes et les saints ne vous sauvaient dans leur nostalgie de l'immense. Allez loin, 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 telle est la vocation de l'homme. Je plains les sédentaires de l'esprit, ils ont fermé leur âme à clé, poussière. Je m'en irai vers le royaume de splendeur emportant avec moi la souvenance des jours heureux. Et j'attendrai dans la nuit obscure le grand jour des cymbales et de la parousie, où je ressusciterai avec mes os et avec mon corps afin de bénir la voie, la vérité et la vie. Le christianisme, mes divines, c'est cette longue respiration, cette amplitude de l'âme, un fleuve, un large et puissant fleuve amour. Vous vous y baignerez. Je m'en irai, je me dissoudrai dans l'amour des étoiles et des mondes, et je retrouverai mes mortes parentées avant de revivre avec elles dans le pays impérissable. Je m'en reviendrai avec ma musette pleine de larmes, de livres et de rêves, et à mon tour je dévorerai l'inconnu dans une ineffable et éternelle étreinte. Je m'en viendrai avec la souvenance des paysages et des peuples. Chanteront les mers, danseront les galaxies, tressailleront les fleuves. Donner, se donner. Nous sommes tous dans la main du grand amant et les premiers balbutiements de notre adoration sont les premiers moments de notre dignité. Adieu, je m'abandonne. Voilà, c'est quelques mots de Xavier Grall qui sont assez bouleversants. C'est un cri du cœur d'un homme fracassé, finalement d'un sportif de l'âme avec une sensibilité très forte. Ce texte, L'inconnu me dévore, sera lu bientôt à Paris, qui touche beaucoup le cœur de personnes qui sont loin de la foi. Et je vous invite, tous les Parisiens, tous ceux qui sont en Île-de-France, tous ceux qui ont pu aimer aussi un peu mes petites interventions sur Radio Maria, à retrouver cet esprit sportif et puis cette allégresse du cœur qui, je l'espère, anime ma personne et qui, je l'espère, aura pu vous animer un peu pendant ces derniers mois. Surtout, soyez des bons pèlerins, restons unis au Seigneur et puis restons dans la joie. À l'année prochaine.
Merci beaucoup Arnaud Boutéon pour toute cette année, toutes ces émissions et nous vous retrouvons dans la joie l'année prochaine. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Athlète du Christ avec Arnaud Boutéon. Aujourd'hui, nous parlions de la joie sportive. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à la faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.